Le sujet de cet après-midi, la prière et l'oraison. Quelles que soient les grâces que l'on reçoit durant une retraite, à travers les instructions, la principale grâce de la retraite, c'est évidemment nous exercer à la prière. Pour quelqu'un qui marche ou qui court, il marche et il court, on n'a pas besoin de lui expliquer la théorie pendant qu'il est en train de marcher et de courir. Mais enfin, en principe, là vous êtes plutôt assise, voire à genoux, pendant la retraite, donc vous avez le temps de réfléchir, donc vous donnez quelques indications générales sur la prière, plus spécialement sur tout ce qu'on appelle méditation, oraison. Alors c'est un peu difficile parce que en vous faisant connaissance avec les unes les autres, certaines ont fait peu de retraites ou pas de retraites, d'autres beaucoup de retraites, c'est des vieux loups de mer des retraites. Alors on va leur dire des choses qu'elles connaissent peut-être par cœur. Bon, donc il faut essayer de donner un peu du général et un peu du particulier, et puis de compléter peut-être à travers les instructions, les entretiens, que vous de dire vos besoins, hein, du point de vue de l'oraison, du point de vue de la prière. Donc, patience pour celles qui savent déjà presque tout, qui ont simplement besoin de réveiller leurs convictions. Et puis, bon courage donc aux autres, enfin, essayer de leur donner des conseils sur la prière, mais que ce soit pas trop compliqué. Notre professeur de séminaire nous disait, on a des fidèles qui prient bien, qui prient comme on peut, aussi bien qu'on peut prier quand on est dans le monde. Et dès que vous leur expliquez la méditation et l'oraison, ils savent plus prier. Ça a l'air tellement compliqué. Bon. Alors bon, je ne voudrais pas que vous ayez cette impression-là, c'est pas parce qu'on parle un peu de la théorie de la prière, tout en essayant de vous trouver des exemples, hein, que faut ne plus savoir prier ou que ça devienne tellement compliqué que vous n'osez plus vous mettre en prière, ou que la prière est plutôt une façon de tourner sur vous que de tourner autour de Dieu. Hein. L'essentiel de la prière, c'est de tourner autour de Dieu, d'aller vers Dieu. Je pense que nous essayons tous les confrères, de vous faire comprendre cela. Hein. La prière, c'est on verra un peu la définition, je pense, un petit peu aujourd'hui. Un fait intéressant qui pourrait, c'est pour ça que vous êtes peut-être demandé pourquoi j'ai invoqué Saint Alphonse Marie de Ligori. Certaines savent peut-être bien parce qu'il a écrit un beau livre sur la prière, hein, du grand moyen de la prière. Mais surtout parce que sur son lit de mort, avec ses fils autour de lui, donc puisqu'il a fondé les rédemptoristes, sur son lit de mort, il disait qu'il avait un de ses grands regrets. Voilà. Quel est son grand regret, hein, dit docteur de l'Église, Saint Alphonse de Ligori. Hein. Grand regret. J'ai prêché sur la prière, j'ai beaucoup prêché sur la prière, je n'ai pas assez prêché pour la prière comme moyen de salut. Et on pourrait dire que si tout nous, vous voyez, quand on voit dans les actes des martyrs, toute la géographie des saints dans l'histoire de l'Église, quand il n'y avait plus les sacrements, quand il n'y avait plus, l'aide de la communauté chrétienne, qu'est-ce qu'il leur restait essentiellement? La prière. On peut dire que c'est la dernière chose qui nous restera, même sur notre lit de mort, même si c'est une prière de souffrance. Donc, importance de cette prière. Et il faudrait que on puisse nous arracher tout de l'âme, hormis la prière, hormis le cri de la prière. Et ça introduit une des définitions de l'âme, de la prière, qui est la respiration de l'âme. Et Saint Alphonse et certains de ses disciples disent même, ce que la raison est à l'âme humaine, eh bien la prière l'est à l'âme chrétienne, à l'âme surnaturelle. C'est vraiment le cœur de notre âme, la prière, d'accepter de tout perdre hormis la prière. On voit bien sûr, aussi chez des grands saints qui ont été très purifiés, ils ont l'impression que la prière leur était retirée parce qu'ils étaient dans un tel état de souffrance qu'il n'y avait plus de prière, si l'on peut dire, d'action, mais une prière d'état. Et il peut y avoir une lumière pour nous d'ailleurs à ce sujet-là, puisque on pense souvent à la prière vocale ou à la prière des actions intérieures de notre âme. On ne pense pas assez, surtout dans les rapports entre la prière et le travail, on ne pense pas assez que c'est d'abord un état. Et que parfois, si on ne peut pas agir ou exercer les actes humains de la prière, il y a certains états d'épreuves ou de tentations ou de difficultés ou de maladies qui équivalent à une prière habituelle, une prière implicite. Saint Thomas dit que celui qui offre toujours son travail, qui offre toujours l'intention d'honorer Dieu, il est toujours en prière. Ce qui vous explique notre Seigneur ait pu dire qu'il fallait prier à tout instant. Il ne faut pas être tout le temps actuellement en état de en exercice de prière. Par contre, il peut y avoir cette continuité morale de l'intention. C'est très important, ça, pour pas se décourager, qu'on puisse pas prier toute la journée, même si on a très envie ou presque très peu de prier. Alors, essayons d'abord quelques définitions. Après, nous essaierons de voir un peu la division, des distinctions un peu sur les formes de prière, sur les espèces de prière. Et puis ensuite, donc, des conseils plus spéciaux pour l'oraison. C'est un peu le plan, je vais essayer de suivre ça. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout finir. Je crois qu'il va y avoir une des instructions qui va être le fourre-tout de ce que j'ai pas pu vous dire, puisqu'on a mis conseil et résolution, donc on va pouvoir tout mettre ce que j'ai pas pu vous dire. C'est bien pratique. Non, je vais essayer quand même de vous faire le mieux possible. Alors, définition d'abord, définition très courante, élévation de l'âme. Voilà. Élévation de l'âme vers Dieu. Voilà. Élévation de l'âme vers Dieu. Élévation de notre intelligence, de notre cœur, de notre âme raisonnable vers Dieu. Pour faire quoi? Eh bien voilà, la politesse. La politesse avec le ciel, exactement. L'adorer, le Gloria in Excelsis Deo. Demander ses grâces, voilà. Demander pardon et dire s'il vous plaît, voilà, exactement. Comme dans le catéchisme, c'est ça. Je crois que c'est la définition du catéchisme que vous avez dû me donner. Voilà, adorer, remercier, demander pardon. Pour s'en souvenir, c'est donc s'il vous plaît, merci, pardon et Gloria. Voilà, c'est ça, facile à se souvenir. Alors, vous voyez déjà, il y a une indication pratique pour vous. La prière n'est pas tout le temps, du point de vue de l'exercice, n'est pas sans cesse, ne faisons pas sans cesse des actes d'adoration, pas sans cesse des actes de demande ou de remerciement, mais elle peut, la prière, et même l'exercice de la prière, eh bien, peut donner une place plus ou moins importante, suivant la trêve, suivant ce qu'indique aussi la liturgie, qui est une école formidable de prière. Peut donner plus de temps à l'action de grâce, au merci, au pardon, à la demande de grâce, voilà. Bon. Ou alors une prière de pure louange, de pure adoration. Ce que fait beaucoup la liturgie, ce que nous enseigne à faire la liturgie, et que nous exercerons, surtout au ciel. Nous chanterons les miséricordes de Dieu. Une autre définition de la prière, bien sûr, il y en a plusieurs des définitions. Peut-être plus ça définirait peut-être plus l'oraison. C'est celle que donne sainte Thérèse d'Avila. Donc elle dit entretien familier avec un Dieu dont elle se sait aimée. Voilà. Alors, si on retrouve ça. Ils sont trois. Où est-ce que c'est? Bon, je trouve pas. Enfin, je sais qu'elle le dit. Je sais pas où elle le dit, mais je sais qu'elle le dit. Bien. Donc, elle sait aimer. Voilà. Ça s'appliquera peut-être plus à l'exercice de l'oraison. Alors, le point qui m'intéresse ici, dont je voudrais un peu développer pour vous, c'est les espèces de prières. Alors, vous savez, certaines distinctions. D'abord, la prière vocale, la prière mentale. Une grande distinction, très connue. Donc, en gros, les formules de prière et puis la prière de l'esprit, la prière du cœur. Il y a toujours un minimum de prière vocale, bien sûr. Mais si vraiment on manque de temps pour la vocale, l'oraison mentale, la prière mentale peut suffire. Bon, la distinction qui m'intéresse le plus ici, parce qu'on fait beaucoup de confusion là-dessus, c'est la distinction dans la prière, de forme de prière, espèce de prière, entre la méditation, l'oraison, la contemplation. Voilà. Ce sont des formes de prière spécifiques. Alors, la méditation, souvent, bon, on prend un peu l'un pour l'autre. J'ai pas fait ma méditation, et parfois, en réalité, on parle de l'oraison. Méditation spécifiquement, ce sont des pensées, des réflexions sérieuses sur un sujet surnaturel pour éclairer notre intelligence. Vous voyez. Oui, il y a une... ce qui est prédominant dans la part de méditation, souvent, enfin, au sens strict, c'est la part de réflexion, la part d'exercice de l'intelligence. Oui. On a des pensées. Et on lit, quand on dit lire une méditation, par exemple, une suite de pensées. Elle est en vue, bien sûr, en principe, elle est en vue de nous éclairer l'intelligence, de déclencher aussi, bien sûr, la volonté, les affections, et puis de faire prendre peut-être quelques résolutions. Mais enfin, le formel de la méditation, à proprement parler, au sens strict, c'est plutôt un exercice de réflexion. Dans la méthode d'ailleurs de Saint Ignace, c'est plutôt la première partie de la prière. Alors, assez vite, sauf si on a un tempérament très intellectuel, on s'en lasse. Hein, parce que c'est une suite de pensées, on risque de philosopher, quoi. Hein. Bon, ou de partir dans la distraction. Parce que soit on comprend pas, soit ça évoque des choses qui ne nous parlent pas. Alors, on va chercher des distractions. Ou alors, on va retraite vers des dévotionnettes très sentimentales. Bon. Ou en tout cas plus sensible. Ensuite, l'oraison. À proprement parler, l'oraison, elle, est plutôt l'exercice du cœur, au sens le plus noble, c'est-à-dire de cette part en nous qui peut aimer et vouloir. Elle supposera d'ailleurs toujours un peu de méditation. Dans des communautés, bon, chez nous faisons comme ça, matin une méditation qui est toujours là, toute la nuit sur la passion, le matin, et puis le soir... C'est des médiations pure source sur l'évangile. Il y a trois points. Bon. Bah, parfois, un seul des points peut nous suffire. Il y a trois points de méditation. Et puis, un seul des points peut nous suffire pour faire oraison. Parce que l'essentiel de l'oraison, c'est les affections du cœur. Les affections. Au sens d'être affecté. Vous voyez, on se met devant Dieu pour être affecté par lui. Pour qu'on Dieu nous fasse quelque chose. Il le fait toujours, pour prendre conscience que le bon Dieu agit sans cesse sur nous. Et le faire avec piété et dévotion, et conscience, et amour. Donc la part de l'oraison dans l'oraison, c'est le centre, on pourrait dire, le cœur, c'est surtout les affections en vue de la résolution. Voilà. Dans l'oraison, il y a toujours une certaine part de méditation, une part d'exercice d'intelligence, mais on cherche surtout à exercer le cœur et la volonté. Surtout. Et puis, eh bien, on pourrait dire que quand même, le but de la méditation, le but de l'oraison, c'est d'arriver à contempler. Dans la contemplation, en fait, déjà, il y a un peu de contemplation dans la méditation, puisque on contemple intellectuellement, au moins un minimum de réflexion. On contemple, on réfléchit. Bon, si on ne reste que là, on a peut-être fait une bonne méditation. Religieuse, philosophique ou théologique, mais on n'a pas vraiment forcément prié. Mais il y a déjà un peu une part de contemplation au sens où il y a un regard sur Dieu, un regard qui est surtout intellectuel dans la méditation. Religieusement intellectuel, mais quand même intellectuel. Plutôt intellectuel. Dans l'oraison, le formel de l'oraison étant plutôt l'exercice des actes du cœur et de la volonté, eh bien, ce qui est recherché, bien sûr, c'est aussi de contempler, de mettre notre cœur et notre volonté en harmonie avec ce que nous contemplons, en harmonie avec les perfections de Dieu, avec les personnes de la Très Sainte Trinité, avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec ce que nous regardons, les scènes de l'Évangile que nous regardons, les mystères du rosaire que nous pouvons contempler, etc. En vue de contempler. Alors je vous invite, si vous avez un manuel bleu, beaucoup en ont, puisque beaucoup ont fait les exercices de Saint Ignace. Je vous rappelle que c'est le patron de tous les exercices spirituels. On dit, ah, moi je suis surtout ignatien, ou je suis pas ignatien, ou je sais pas quoi, bah, peu importe. Hein. C'est le patron de tous les exercices spirituels, que ce soit des retraites de la fraternité, des retraites dominicaines, des retraites de capucins, des retraites de ce que vous voulez, des retraites de vie chrétienne, des retraites de la vie privée. Le patron de tous les exercices spirituels depuis Pion, c'est Saint Ignace. Donc il faut le prier. Voilà. On n'est pas forcément pour ça strictement ignatien, mais il faut prier Saint Ignace. Alors, dans votre manuel de bleu, là, il y a quelque chose que j'essaie de lire tous les 3 à 6 mois, parce que c'est très bien fait. Page 299, dans l'édition que j'ai, il parle de l'importance de l'oraison. D'ailleurs, il fait précéder cette importance de l'oraison de ce qu'on demande dans une retraite. Recueillement de l'esprit et docilité parfaite du cœur. Et alors, dans ce chapitre sur importance de l'oraison, saint François de Sales, justement, parle des rapports méditation, contemplation, oraison, je ne sais pas si on parle. Il parle plutôt méditation et contemplation, saint François de Sales. Voici ce qu'il dit. Pour comprendre les mystères de la foi, il faut que nous fassions comme pour rendre la viande capable d'être avalée. Il faut que nous la mâchions et que nous la roulions plusieurs fois dans notre entendement par la méditation. Dans notre intelligence, on prend une vérité religieuse et puis on rumine, on la mastique. C'est l'image d'ailleurs que prenaient les spirituels du Moyen-Âge. Rumination, méditation, comme les vaches. Bon. Afin d'échauffer notre volonté en l'amour de Dieu, afin d'échauffer notre volonté en l'amour de Dieu, ici ce serait l'oraison. Page 300 du manuel bleu, si vous l'avez, s'il y en a qui l'ont ici. Afin d'échauffer notre volonté en l'amour de Dieu, avant, troisièmement, que de passer à la contemplation. Voilà. Et saint François de Sales encore, donc tout à la fin là, de ce petit chapitre, résumé sur un peu des conseils très généraux et ponctuels sur l'oraison. La méditation est semblable à celui qui, il a toujours charmantes images, qui odore l'œillet, la rose, le romarin, le thym, le jasmin, la fleur d'oranger, l'un après l'autre distinctement. Donc on s'arrête sur des vérités. Bon. Mais la contemplation est pareille à celui qui odore l'eau de senteur composée de toutes ses fleurs. Cette unique odeur est à elle seule plus suave et plus précieuse que les senteurs desquelles elle est composée, odorées séparément l'une après l'autre. Oui. Alors, vous voyez, le but de la méditation comme de l'oraison, c'est d'arriver à contempler, à regarder, à poser notre regard sur quelque chose. C'est d'ailleurs ce que dit aussi saint Ignace. Si j'éprouve dans un point de la méditation, et donc dans ce que j'offre comme un plateau à mon intelligence, les sentiments que je voulais exciter en moi, je m'y arrêterai et m'y reposerai sans me mettre en peine de passer outre, jusqu'à ce que mon âme soit pleinement satisfaite. Et le père Rodriguez... Quoique la méditation soit si utile et si nécessaire, il ne faut pas que toute notre oraison, donc au sens général ici plutôt de prière générale, d'exercer prière, se passe en raisonnement et en réflexion. Ce n'est pas là que nous devons nous arrêter, parce que de cette sorte, ce serait plutôt une étude qu'une vraie prière. Nous devons nous entretenir dans la méditation autant de temps qu'il nous faut pour émouvoir, pour réchauffer notre volonté. Et savoir interrompre cette méditation, cette réflexion, pour nous arrêter à ces mouvements d'affection jusqu'à ce que notre âme en soit toute pénétrée. Voilà, vous avez un peu la distinction et puis un petit peu les rapports de toutes ces définitions de la prière d'oraison, surtout. Vous saisissiez que vous avez une juste conception de la prière d'oraison, des espèces de prières plus spéciales, espèces d'oraison, de prière méthodique, on pourrait dire. Voilà, donc, introduction, définition, division. Voilà, donc, introduction un petit peu générale. Alors, revenons maintenant à la grande loi de la prière qui va s'appliquer aussi bien, donc, de par sa définition, qui va s'appliquer à toutes ces formes de prière méthodique. Qu'est-ce qui est demandé d'abord de toute prière, que ce soit méditation, oraison, en vue de contempler? Eh bien, des qualités qu'on rappelle, qu'a beaucoup rappelé d'ailleurs saint Alphonse aussi dans ses écrits sur la prière. Toute prière doit être humble, confiante et persévérante. Et si vous examinez un peu les formules de prière du matin, du soir, les formules que l'Église a consacrées, eh bien vous retrouvez un accent d'humilité, un accent de confiance, un accent de persévérance. Et vous reconnaissez à travers humilité et confiance les deux lois que je vous ai données hier dans le combat spirituel. En vertu de cette loi d'une prière humble, confiante et persévérante, les secours divins conduisent efficacement l'homme à sa fin. Et cela infailliblement. mais d'ordinaire, uniquement à la demande qui en est faite quand et comme il faut, selon l'esprit du Notre Père et de la salutation angélique. Voilà. Et c'est vrai, si vous voulez parfois vous remettre dans l'esprit de prière, n'hésitez pas à lire ces beaux commentaires qui ont été faits par la plupart des docteurs et des grands saints de l'Église sur le Notre Père. Commentaire de Pater et de l'Ave par saint Thomas, une merveille. Commentaire dans le chemin de la perfection de sainte Thérèse d'Avila sur le Notre Père. Les commentaires de saint Augustin, de saint Jean Chrysostome sur le Notre Père. C'est magnifique. Parce que c'est le bon, c'est la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette prière, il y a vraiment toute l'essence de la prière, toute l'essence de l'oraison se trouve dans le Notre Père. Donc n'hésitons pas aussi, parfois, bien à l'occasion de lectures spirituelles qu'on fait, bien non seulement à le prendre comme sujet de lecture spirituelle, mais à méditer sur le Notre Père. D'ailleurs, saint Ignace, dans ses exercices, dit quand on n'arrive plus à prier, on dit lentement, ce que faisait aussi saint Thérèse de l'Enfant Jésus, on dit lentement le Notre Père, en se pénétrant bien de la paternité de Dieu, sa bonté, il est bon, il est créateur. On raconte dans la vie de saint Germaine de Pibrac, elle n'arrivait pas à dépasser le Notre Père. Elle disait Notre Père, puis après elle tombait dans un tel monde de pensées et d'intimité avec le bon Dieu qu'elle n'a jamais pu continuer le Notre Père. Et on raconte la même chose dans la vie de saint Nicolas de Flux, sur des dizaines ou des centaines de kilomètres, il a commencé le Notre Père, il n'arrivait pas à passer à la deuxième demande, enfin à la deuxième. Bon, il y a ici une grâce spéciale de contemplation, évidemment. Hein, bon. Mais enfin, c'est pour vous dire la richesse de cette prière, hein, le Notre Père. Hein, notre Père qui est aux cieux, hein, les cieux, c'est. Saint Thomas nous dit, c'est lui-même d'abord, et puis c'est la Trinité, ce sont les âmes des saints, ce sont les âmes des anges, ce sont toutes les âmes qu'il aime, les cieux du bon Dieu. Son nom sanctifié, c'est sa personne même glorifiée, oui. Hein. Son nom, son règne, sa volonté, hein, qui doit être au centre de la prière, de toute prière, oraison, méditation, contemplation. Le but de notre prière, la fin de notre prière, à travers les quatre devoirs que nous rendons dans notre prière, la fin, c'est d'accomplir la volonté de Dieu avec l'Esprit de Dieu et selon sa volonté. Hein. Pas l'oublier, c'est très important, surtout quand la prière est sèche, vous voyez, hein, l'exercice général ou l'exercice de l'oraison. Continuer et faire une oraison de foi, hein, de foi en la volonté de Dieu. Je suis là pour vous, j'avance, je continue. Et puisque nous devons demander, évidemment, dans notre Père, hein, le pain quotidien, les pères de l'Église pensent que c'est même d'abord le pain de l'âme et le pain eucharistique, hein, en même temps que le pain du corps. Et pardonner nos offenses, hein, terrible prière quand on y réfléchit un peu, comme nous pardonnons. Et ne laissez pas succomber à la tentation, hein, toujours d'être mis en garde, mais délivrez-nous du mal, ou si c'est la traduction très littérale, du malin, hein, du mauvais, de celui qui est l'auteur du mal et qui pousse au mal par la tentation. Et puis évidemment, dans la salutation angélique, hein, priez pour nous, bien sûr, pauvres pécheurs, maintenant notre prière et puis à l'heure de notre mort. Donc prière humble, voilà. L'homme est un pauvre et doit tout demander à Dieu. Voilà. Pourquoi ? Monseigneur nous l'a expliqué il y a un ou deux soirs dans une instruction de repas, là, de soir. Nous recevons tout de Dieu et continuellement. Voilà ce qui devrait nous faire de façon habituelle une âme de prière, de dépendance. Nous sommes continuellement physiquement créés par Dieu, mais aussi surnaturellement. Un jour, un moine cistercien, un jeune novice, demandait à son père abbé, ou du moins son maître d'études en théologie, de lui expliquer ce que c'était, ce qu'on appelle, cette vérité un peu difficile, de la création continue, la conservation. La création, nous pensons que le bon Dieu eh bien, a créé, et puis bon, c'est fini, après il laisse les lois se faire sans suivre un peu ce qui se passe, alors que notre Seigneur nous dit qu'il n'y a pas un seul cheveu de notre tête qui tombe sans sa permission. Alors il dit, bien voilà, la création continue, voilà ce que c'est. Hein, cher frère, voilà ce que c'est. C'est comme si le bon Dieu te disait à chaque instant, je te crée, je te veux, je t'aime, au surnaturel, au naturel et au surnaturel. Voilà ce que fait le bon Dieu à chaque instant. Et alors celui qui prend conscience de ça, bah, ça le met en prière, ça. Il garantit que si on réfléchit un petit peu à ça, on se dit, bah, à tout instant, nous recevons de Dieu. Hein, tout instant. Naturellement et surnaturellement. Et ça doit nous disposer un peu à prier, nous faire une âme suppliante et humble. Nous sommes des pauvres qui devons tout demander au bon Dieu. Confiance. Nous sommes arrêtés hier à l'occasion du combat spirituel. Elle a bien sûr nous arrêtés plus souvent aux effets de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Et persévérance. Une très belle parole du père Cruz. C'est un père, un saint du Portugal, on pourrait dire, qui a fait passer, je crois, l'examen de première communion à sœur Lucie au moment des apparitions de Fatima. Et il aimait beaucoup dire cette parole. Le bon Dieu, et c'était une âme de profonde prière, le bon Dieu gouverne tout par sa providence, mais nous pouvons tout gouverner par la prière. Parce qu'en fait, notre prière qui est attendue par le bon Dieu, d'une certaine façon, souvent nous croyons que la prière change les desseins de Dieu ou les providences de Dieu. C'est tout l'inverse. Nous voyons les choses à l'envers. En réalité, notre prière nous fait entrer dans le plan de la providence parce que le bon Dieu a prévu cette prière qu'on va faire et il a prévu le temps, le lieu de l'exaucer. Oui. Croyons souvent, on va changer les desseins de Dieu par notre prière. Oui, bien sûr, des fois le bon Dieu nous fait faire un peu, nous donne un peu cette impression-là. Mais c'est pas du tout ça. En réalité, le bon Dieu prévoit notre prière, sait notre prière, attend notre prière, veut donner la grâce, mais il attend en même temps la prière pour exaucer cette grâce. Et des fois, il se fait attendre un peu, le bon Dieu. C'est soit la minute plus une ou la minute moins une, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai, le bon Dieu fait désirer ses grâces. C'est vrai, c'est la plus grande grâce. Il fait désirer. Et en même temps, il donne des grâces, d'ailleurs, parce que cette persévérance dans la prière nous purifie. Nous fait exercer la patience, l'espérance, l'amour. Nous fait battre au rythme de Dieu, au rythme de la providence divine. Et pas à notre providence, à nous. Et oui, nous sommes souvent quand le père Éloi, qui est décédé, je crois, cette année, une retraite, nous avait dit, mais mon pauvre ami, quand vous priez, souvenez-vous toujours qu'on est une petite fourmi dans un grand champ de construction. Ah, vous voyez, les gros tas de sable, les gratte-ciel, les grues, et puis vous êtes de la taille de 3 grains de sable. Et qu'est-ce que vous comprenez à tout ça? Ben, dans l'univers, c'est pareil. Une autre belle image du Padre Pio, un peu dans ce sens-là, par rapport à la prière dans le sens de la providence, du temps où on faisait des broderies ou autres, et où les enfants étaient assis au pied de leur mère, ils regardaient par-dessous, et qu'est-ce qu'ils voyaient? Des tas de fils enchevêtrés dans tous les sens. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, maman? Et la maman montrait ensuite, voilà ce que je suis en train de faire, la broderie. Et il disait, par rapport au bon Dieu, on est exactement comme ça. Nous, on voit tous les fils enchevêtrés par-dessous, et puis le bon Dieu, lui, il voit le plan de par-dessus et c'est magnifique ce qu'il est en train de faire. Quelle belle image. Avec les saints pour trouver des images pareilles. Le bon Padre Pio, là, l'image qu'il donnait. Tâchons de nous en rappeler lorsque nous trouvons que nous ne comprenons pas très bien les plans de la Providence. Et un saint qui disait, qu'est-ce que peut comprendre un os de 3 doigts au plan immense de la Providence divine? Voilà. Donc ça doit nous aider à être humbles, confiants et persévérants. Voilà. Une persévérance double, qui sache redemander longtemps les mêmes choses et en même temps en demander constamment de nouvelles. Voilà. Père du Surmont, un fils de Saint Alphonse. Notre prière doit être confiante parce qu'elle est humble. Mon Dieu, c'est précisément parce que je suis indigent et indigne que j'espère en vous. Voilà, c'est un hommage à votre bonté. Vous me devez rien, mais vous devez quelque chose à votre bonté. Humble parce qu'elle est confiante. Mon Dieu, puisque c'est de vous seul que je dois espérer, il faut que je sois modeste. Voilà. Persévérante par humilité et par confiance. Mon Dieu, puisque je n'ai que vous pour ressource, à vous je reviendrai sans cesse. Et puisque vous êtes inépuisable en richesse et en bonté, jamais je ne craindrai de vous importuner. Oui, le bon Dieu a son éternité pour nous exaucer, mais nous, on n'a que quelques années de notre vie pour gagner notre ciel et pour le faire gagner à d'autres. Bon. En tout cas, selon cette loi d'une prière humble, confiante et persévérante, nous serons toujours exaucés, tôt ou tard. Voilà. C'est sûr, c'est certain. Les vrais désirs, les vraies volontés de Dieu concernant notre salut, tout ce qui est lié nécessairement à notre salut, nous serons exaucés, c'est sûr et certain. Pas à douter là-dessus, par principe. Ces secours sont accordés infailliblement, mais uniquement à la demande qui en est faite. quiconque prie obtient. Les biens qui, à notre connaissance ou bien sans notre connaissance, n'ont pas une liaison nécessaire avec notre fin, sont parfois refusés à la prière, Dieu le préférant pour un plus grand bien. Mais les biens liés à notre salut, jamais. Le Seigneur est un très bon et très riche bienfaiteur qui nous refuse parfois l'argent ou le cuivre, mais qui ne nous refusera jamais l'or ou le diamant. Voilà. Alors, au sujet de toujours prier. Il faut toujours prier sans interruption. Non pas avec une continuité physique, hein, comme le poisson qui toujours remue ses nageoires dans l'eau, mais avec une continuité morale. Comme on dit que pour vivre, l'homme doit toujours manger et boire, c'est-à-dire régulièrement, chaque jour et jusqu'à la mort. Et encore y a-t-il une continuité ininterrompue qui nous est imposée, celle du cœur. Au chapelet ou les prières répétitives, ou même nous les moines qui répétons les psaumes ou des psaumes plusieurs fois par jour et plusieurs fois par semaine, eh bien parce que, en fait, même si cette prière a un côté mécanique, auquel nous laissons parfois aller par routine malheureusement, eh bien elle nous crée, elle fait de nous une âme suppliante et dépendante. Et ça, c'est une prière continuelle. Toujours sur la loi générale de la prière, une des plus grandes épreuves ménagées à l'homme par la Providence consiste en ce que la prière n'est jamais plus nécessaire et ni jamais plus difficile qu'au moment de la tentation. Voilà, continue à prier quand on est tenté et surtout quand on est tenté de ne pas prier. Pour que l'on puisse prier alors et toujours autant qu'il le faut, Dieu donne à tous la grâce commune de la prière. On peut prier. Mais la prudence demande que chacun cherche à obtenir en outre l'esprit de prière, la vertu de prière, oui. Hein, ce qu'on appelle en psychologie ou théologie chrétienne l'habitus de la prière, oui. C'est-à-dire un besoin habituel, fréquent, de nous élever, de nous tourner vers le ciel, de nous entretenir avec Dieu. Et ce qui nous aidera beaucoup à prier dans la tentation, c'est évidemment l'exercice méthodique de l'oraison. C'est ici que ça va intervenir. Oui. L'exercice méthodique de la raison, de l'oraison, va faire que, eh bien, au temps de la prière où ce sera difficile, nous serons aidés. Voilà. Cette fidélité. Certains disent, je suis à prière, mais alors il fait pas, comme disait Saint-Thérèse d'Enfant Jésus, le bon Dieu il fait pas des frais de conversation, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Eh bien, ça ne fait rien. Votre acte en soi, indépendamment de ce que vous faites, de ce que vous dites intérieurement ou extérieurement, le fait que vous soyez centré uniquement sur Dieu pendant un certain temps chaque jour, vous êtes là que pour lui, je suis là que pour vous. Voilà, je suis là que pour vous, mon Dieu. Même si vous avez des distractions, mais si vous avez votre intention et que vous gardez cette intention et que vous n'abandonnez pas votre prière, c'est une prière qui plaît à Dieu. Voilà. Et vous ne savez pas les biens que Dieu vous ménage pendant ces prières sèches. Il prépare des grâces. Les saints nous disent, le bienheureux Jean d'Avila, il dit, vaut mieux une prière sèche que 100 prières consolées. Ça ne veut pas dire qu'on doit souhaiter avoir que de la prière sèche, mais 100 prières consolées, ça ne vaut pas une prière sèche de patience, de foi. Voilà. Parce que, à ce moment-là, eh bien, l'action surnaturelle de Dieu est beaucoup plus profonde et efficace que nous ne le pensons. Et cela, même malgré les distractions. Voilà. Et dans la prière, qu'il s'agit de la prière vocale, la prière mentale, la prière en commun, ou la prière privée, l'intention est plus importante que l'attention. L'attention, c'est cette disposition de nos facultés à nous arrêter sur un objet, voyez, être attentif, et spécialement avec notre esprit, hein, une part de notre volonté, par la concentration. L'intention, eh bien, c'est le mouvement, l'élan de notre volonté, de notre cœur. Et le père Ambroise de Lombèze, un disciple de saint François de Sales, disait qu'il est plus facile de garder son intention que de garder l'attention, parce que l'attention dépend beaucoup de nos dispositions, même physiques. Si nous sommes fatigués, bah c'est évident que l'impressionnabilité, l'imagination vont faire que notre prière va être peut-être difficile. Mais nous avons toujours notre volonté à nous, et nous pouvons toujours fixer notre intention, notre intendere, tendre vers. Voilà. Et attachez beaucoup plus même, vous voyez, appliquez-le à vos prières vocales du matin, du soir, à votre chapelet, et plein de distractions, bah oui, plein de distractions. Mais ne soyez pas distraits du cœur et de la volonté. Vous l'êtes peut-être de l'esprit, mais pas du cœur et de la volonté. Hein. Vous connaissez peut-être cette histoire qui amuse souvent les retraitants. lorsqu'on leur dit, eh bien, dans certains ordres religieux, les directeurs spirituels, les aumôniers, ou les confesseurs interrogent un petit peu, en passant, les formes de prière qu'on a chez les carmélites, ou les claristes, ou les contemplatives. Puis demandent, bah, qu'est-ce que vous, comme on l'a fait pour Saint-Thérèse l'Enfant Jésus, ou Sainte-Élisabeth de la Trinité, c'est assez propre au Carmel, semble-t-il, d'ailleurs, cela, bah, à quoi vous occupez dans l'oraison? Bon. Et alors, une sœur, un jour, répondit, bah, qu'est-ce que vous dites, ma sœur, pendant l'oraison? Bah, écoutez, en ce moment, mon père, pendant l'oraison, je dis, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Expliquez-vous, ma sœur. Bah, voilà, mon père. Je fais un ouvrage de broderie en ce moment, ça me prend beaucoup la tête, et quand je suis à la prière, je pense qu'à ça. Alors, je dis au bon Dieu, à la chose en question, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ah, elle était distraite, peut-être de l'esprit, peut-être l'imagination, du souvenir. Elle n'était pas distraite du cœur et de la volonté. C'était une très bonne oraison. Voilà. Bon, ceci dit, peut-être qu'elle était peut-être trop passionnée aussi dans sa broderie. Autre histoire d'un père maître bénédictin, à ses novices, maître des novices. Ah, vous voulez dissiper, distraire, faire de l'activisme pendant la journée. Eh bien, mes petits gars, le soir, quand vous allez vous retrouver à l'oraison, ne vous étonnez pas quand le bon Dieu vous dira « Maintenant, on règle les comptes !» Vous voyez ? Eh oui, des fois, les causes de notre raison distraite, c'est que, bon, indépendamment de ce qu'imposent des fois les devoirs d'État, de profession ou de vie familiale, si on est à courir partout tout le temps, hein, agité, distrait, bah, c'est sûr qu'au moment de l'oraison, d'abord, ça risque d'être un pieux repos, bon, une douce oraison de Saint-Pierre, ou alors l'excitation électrique. Eh oui, souvent, il y a des préparations lointaines à l'oraison. Si on n'est pas recueilli, si on court partout, si on vit pendant toute la journée de ses passions, bah, ces passions, elles vont pas dormir pendant la prière, hein, ou ça va être la passion paresse, quoi, dodo. Hein. Vous voyez ? Donc attention à ça, hein, c'est important. Hein. Donc ne vous affolez pas, mais cherchez à toujours bien garder votre intention, plus que l'attention. Tant mieux si vous arrivez à nourrir votre attention parce que vous avez des goûts et du temps pour la lecture spirituelle, pour avoir des bonnes pensées. C'est très bien. Ça peut même être parfois ce qu'on appelle un diminutif de l'oraison. Mais attachez surtout l'importance à l'intention. Ça me disait le mauvais tourné autour d'une bénédictine qui était en train de mourir. Et puis, on l'entendait grogner, râler, dire « Je peux rien contre cette chienne de bonne volonté !» Très bien. Voilà, apportons cette chienne de bonne volonté dans notre prière. Voilà, et ce sera une bonne prière, de toute façon, une bonne oraison. Alors, il est difficile de prier dans la tentation. Voilà, difficile. Mais si on s'est entraîné chaque jour à venir, vous savez que Sainte Thérèse d'Avila a dit que si on fait un quart d'heure d'oraison par jour, notre salut est moralement assuré. C'est-à-dire ce qui équivaut à la certitude morale. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible que quelqu'un qui donne un quart d'heure au bon Dieu chaque jour, spécialement par l'exercice de la méditation, ou plutôt de l'oraison, si vous voulez, plus spécialement. Il est impossible qu'il ne se voit pas dans le miroir de Dieu, qu'il ne voit pas où il en est par rapport à son salut, même s'il a des distractions, même s'il n'est pas très bonne, son oraison. Il est impossible qu'il n'assure pas le minimum pour son salut et pour ses devoirs d'État. Voilà. Il obtiendra la grâce de la contrition, celui qui a fait un quart d'heure d'oraison par jour. Contrition parfaite de ses péchés. D'où l'importance de reprendre, oui. Souvent, bien, on fait oraison après une retraite, on a été chauffé par les prédicateurs, l'Esprit Saint a soufflé fort pendant la retraite. Alors, la pente elle descend bien, ça descend tout seul, il n'y a pas besoin de... On peut en roue libre, là. Et puis après, bon, les mois montent, alors la pente, elle devient de plus en plus comme ça, et puis on met un pied par terre, et puis on s'assied sur le bord, puis on arrête. Bon, c'est un peu ça, quoi. Hein. Donc, d'abord comme ça, puis après, ça... après, bon, oh, l'oraison, je peux plus, c'est pas possible. Bon, sans compter que nos formes d'oraison peuvent varier. Le bon Dieu est des fois un côté déconcertant. Nous n'avons pas toujours le même état d'âme, ni la même disposition, mais restons, soyons là, restons là, persévérons. Et ce quart d'heure d'oraison ou de méditation. Alors vous pouvez le varier, le meubler. Bon, si vous voulez dire lentement une prière vocale, si vous voulez faire une lecture méditée. D'ailleurs, un des premiers pas pour entrer doucement dans l'oraison, c'est la lecture méditée. Saint Léonard de Port-Maurice, Saint François de Sales, même Saint Pierre d'Alcantara qui a beaucoup écrit sur la prière et l'oraison, dit qu'on peut très bien commencer, et même souvent, même les religieux doivent revenir à la lecture méditée. Qu'est-ce que c'est que cette lecture méditée? Ou une lecture en esprit de raison, ça peut être plus exact. Bien, nous lisons quelque chose, puis quand quelque chose nous éclaire ou nous touche, bon, on s'arrête, puis on tâche d'adresser un petit quelque chose au bon Dieu, de faire une petite réflexion, de laisser un petit mouvement de notre cœur se faire. Et où j'irai, où sera le raison? Eh bien, c'est sûr que plus les temps de présence à Dieu hors du livre se feront grands, et plus ça indiquera que votre raison est plus profonde. Je suis très surpris de le voir dans un petit livre qui s'appelait, c'est pas mon premier petit missel, c'est l'abbé Pope qui a écrit ça, l'ami des petits. C'est un petit missel, c'est le pré-missel liturgique qu'il a écrit. Et alors c'est formidable ce qu'il y a de pédagogie, de psychologie, c'est ce saint prêtre, il doit être vénérable ou bienheureux maintenant, leur Pope. Son livre est rédigé de la façon suivante. Alors, il y a une petite introduction, et puis il dit, cher enfant, vous ne serez pas surpris dans le livre de voir qu'après chaque phrase un peu importante, j'ai laissé trois petits points. Pourquoi il y a ces trois petits points que tu vas voir dans toutes les pages du livre? Eh bien, quand tu auras lu un certain nombre de phrases, eh bien, si tu veux t'arrêter à l'un de ces trois petits points, dis quelque chose qui vient de ton cœur au bon Dieu. Quelle merveille! Les enfants sont capables, bien plus que nous, de raison. Il n'y a pas besoin de leur dire, leur expliquer aux enfants leur raison. Que s'ils font bien leur prière, hein, s'ils tâchent d'être attentifs aux formules, ou s'ils aiment certaines prières, ils font raison, les enfants. Voilà. Les enfants peuvent faire aux raisons. Ils ont même une capacité plus grande que nous, parce qu'ils sont plus purs que nous. Et aux enfants. Alors nous, il faut qu'on rapetisse. Voilà. Qu'on rapetisse, qu'on se remette au béaba de la prière. Voilà. Nous recevons une lumière. Eh bien, toute lumière qui vient du créé ou de l'incréé, devrait nous, si on était normal, en normaux, on ne l'est plus depuis le péché originel, eh bien nous devrions, ça devrait créer en nous une disposition, un mouvement d'amour vers le bon Dieu, un mouvement à nous élever vers Dieu. Hein. Et c'est pour ça qu'on a les dons du Saint-Esprit notamment, hein, l'esprit de science, l'esprit d'intelligence, est là pour ça. Tout ce qu'on connaît devrait se transformer en amour de Dieu, parce qu'on avait l'âme suffisamment pure, et on le voit chez les saints, et il faut y tendre, on est tous appelés à la sainteté. Voilà, donc ce quart d'heure ou cette demi-heure, suivant vos devoirs d'état, est vraiment capital. Voilà. Votre état de fixation, de don, d'intention d'être là pour l'unique objet divin, rend beaucoup gloire à Dieu, voilà. Rend une gloire immense au bon Dieu, au ciel cela. Alors ceci dit donc, quelques conseils plus précis sur l'oraison. Qu'est-ce qu'est l'oraison? Alors pour cela, je vous conseillerais de lire... Je donnerai quelques conseils de livres. On a dû beaucoup vous en donner. On nous disait qu'à chaque instruction, c'est bien de vous conseiller un ou deux livres. Eh bien, une méthode très simple d'oraison et très profonde, c'est la méthode que donne ce Chartreux qui a écrit le livre Amour et silence, où il explique que tout simplement, notre prière, c'est un exercice des vertus d'union à Dieu, des vertus théologales. C'est un exercice de la foi, de l'espérance et de la charité. Voilà. Charité positive ou charité contrition. Le mal à l'occasion du bien divin. Et c'est uniquement ça. Et alors il dit, dans l'oraison, qu'est-ce que vous faites en réalité? Eh bien, vous exercez votre esprit de foi, tout simplement. Voilà. Sur des réalités que connaît votre intelligence, vous exercez votre foi. Et puis, dans ces vérités, elles doivent vous pousser à demander des biens. Et ces biens, vous les espérez de la toute-puissance miséricordieuse de Dieu. Et c'est le cri de l'espérance. Vous vous défiez de vous-même pour atteindre ces biens. Et c'est l'humilité qui accompagne l'espérance. Et puis, plus vous regarderez les beautés, les grandeurs de Dieu, plus vous serez porté à l'aimer, à vouloir ressembler au bon Dieu. Voilà. Et c'est le cri de la charité. Et à vouloir que d'autres âmes connaissent Dieu. Et c'est le cri de la charité pour le prochain. Et il dit, notre raison, c'est ça en fait. Quart d'heure qu'on fait, alors il y a du plus du moins dans la foi, du plus du moins dans l'espérance, du plus du moins dans la charité et la contrition, mais c'est essentiellement l'exercice de ces grandes vertus-là. Et alors ensuite, qu'est-ce que ce sera l'oraison qui continue, l'oraison continuée, l'oraison qui anime, qui est l'âme de l'activité de la journée? Eh bien, c'est de continuer ce regard de foi, ce regard de confiance, ce regard de charité. Vous voyez, après votre quart d'heure de méditation, eh bien, vous continuez. Ce qu'on trouvait dans les règlements de vie de certaines âmes, hein, mettait un certain nombre de devoirs dans le règlement de vie. Puis en dernier, il est marqué « Oraison, 24 heures sur 24 ». pas quart d'heure de raison avec le nez dans son bouquin, pas ça, non. Mais exercice de la foi, de l'espérance, de la charité, 24 heures sur 24. Eh oui, c'est vrai. Dormez quand même. Bon, bien sûr. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est même ce sommeil que vous offrez, c'est aussi une forme de prière. Quand vous l'offrez, au moment où il faut le faire, bien sûr. Pas au moment où il ne faut pas dormir. Bien. Un autre auteur, donc toujours là, De Surmont, au sujet de l'oraison vertueuse, savoir la continuer quand c'est difficile. Attendez, où c'est que j'ai vu ça? Il explique ce qu'elle est. Oui. Ah oui, lui, sa définition. L'exercice de la foi, l'exercice de l'oraison, donc tendre à sa fin dernière, la bonté souveraine de Dieu, par l'exercice intérieur des vertus, surtout des vertus théologales. Elle se compose de quatre éléments principaux. Renouvellement de notre âme par les pensées de foi. Vous voyez, exercice de la foi, ça rejoint tout à fait ce chartreux. Renouvellement du cœur, surtout par l'amour et la contrition. Et il le met en deuxième, peu importe l'ordre, c'est pas grave. Renouvellement de la grâce par la prière. Si on voit et si on aime, ça fait prier. Et renouvellement de la bonne volonté par la résolution. Alors, est-ce qu'il faut à chaque oraison prendre une résolution? On peut réactualiser des résolutions qu'on a déjà, une résolution générale ou une résolution particulière. Mais c'est vrai qu'en principe, notre oraison doit fleurir, doit fructifier dans une bonne activité. C'est vrai que le baromètre de notre oraison, c'est quand même notre activité quotidienne. Alors, ça ne veut pas dire, attention, hein, pas les sophismes du démon, t'es pas meilleur, t'es presque pire depuis que tu fais oraison, donc arrête l'oraison. Sophisme du démon. Vous ne deviendrez pas forcément meilleur, mais vous ne deviendrez sûrement pas pire en faisant oraison. Ce n'est pas une grande consolation, mais enfin, ça évite de descendre dans le mal. Bon. Mais non, vous recevrez toujours quelques profits de l'oraison, même si vous ne le savez pas, si vous ne le voyez pas, même si autour de vous, on ne comprend pas. Ah bah, depuis que tu pries, tu fais oraison, tu fais des retraites, tu n'es pas devenu meilleur. Hein, un refrain qu'on connaît, ça. Se rapprocher de ça et vous détendre avant que ne sonne la fin de l'instruction. Au sujet de cela, un peu dans cet esprit, au sujet de l'oraison, la patience ou des reproches qu'on nous fait de notre piété ou de notre raison, notre bonne volonté de nous livrer à l'oraison. C'est le commandant Charcot qui avait un caractère absolument épouvantable. Et c'est un grand chrétien, épouvantable. Et alors, il avait un de ses matelots qui particulièrement lui portait sur les nerfs. Et un jour, le matelot... il en avait un peu assez de se faire rabrouer par le commandant Charcot. Et alors, il dit, si c'est ça d'être chrétien. Et alors, le commandant Charcot a répondu cette phrase qui est quand même... je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui l'a un peu inspiré de répondre ça. « Mon petit gars, si j'étais pas chrétien, tu serais déjà passé par-dessus bord. » Bon, eh bien, vous voyez, vous pouvez répondre ça à l'oraison. Si je ne faisais pas oraison, peut-être je serais bien pire que ce que je suis. Voyez, au moins devant le bon Dieu, répondre ça, si vous ne pouvez pas le répondre à ceux qui... vous accuse de ne pas être meilleur parce que vous essayez de mettre un peu plus de piété, de donner un peu plus de religion à votre vie intérieure. Mais il reste vrai que tôt ou tard, l'oraison cultivée, eh bien, elle convertit notre vie. Voyez. Grande loi de prière et d'activité, oraison, activité, de prier comme si on attendait tout de Dieu et d'agir et de travailler comme si on attendait tout de nous-mêmes. Voyez. Ou encore cette belle prière de saint Thomas More. Voyez. Mon Dieu, donnez-moi de prier à ce pourquoi je travaille et de travailler à ce pourquoi je prie. C'est magnifique parce que, en fait, on voit que prière, oraison, piété, toute notre vie, c'est réaliser la volonté de Dieu sur nous. Bon, nous arrêtons là maintenant. Je pense que c'est l'heure. Je tâcherai d'achever dans d'autres instructions certaines choses à vous dire encore.